19, le magazine.
Vous êtes avec le Parc naturel régional des Préalpes d'Azur et on vous parle aujourd'hui du dispositif européen Leader. Donc on va maintenant dédier la seconde partie de cette émission à du concret. On va parler des projets lancés par des habitants. Donc sur des thématiques différentes, on va accueillir deux porteurs de projets, donc l'un sur le volet patrimoine et l'autre sur l'agriculture. Ces témoignages vont nous permettre de découvrir de belles actions qui dynamisent les villages ruraux et de voir comment l'équipe Leader les accompagne dans le montage de leurs projets. Alors Simon, animateur Leader, est-ce que tu peux nous présenter le premier projet sur le patrimoine ?
Alors le premier projet qui a été déposé en 2017 sur notre thématique patrimoine, c'est le projet de constitution d'une base de données patrimoniale sur le haut pays de la communauté de communes Alpes d'Azur. Donc c'est intéressant d'avoir ce projet aujourd'hui parce qu'il a été déjà bien mis en œuvre et ses actions sont bien avancées, ce qui va nous permettre de voir ce que c'est qu'un projet leader concrétisé.
Alors on est justement avec Serge Goracci, vice-président de l'association 1732 Art et Musique des Sommets. Bonjour Serge.
Bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour, alors est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre projet, de vos actions ?
Alors oui, je peux vous parler de notre projet, bien sûr. C'est une initiative citoyenne de l'association 1732. Alors notre projet, c'est de créer un centre de ressources qui est déjà en ligne d'ailleurs. Et dans ce centre de ressources, le public va trouver en ligne tous les documents que nous avons récoltés grâce à notre travail sur le terrain auprès des habitants du Haut-Pays. Alors ces documents, c'est aussi bien du patrimoine matériel que du patrimoine immatériel. Alors, patrimoine matériel, ça veut dire tous les objets de la vie quotidienne dans le monde rural, tous ces objets sont un petit peu les témoins de la vie économique et sociale dans notre territoire.
Donc il y a deux volets alors finalement, il y a le volet collecte de ces données et oui. Organisation et mise à disposition du grand public, c'est bien ça ?
Ah, mais tout à fait. C'est-à-dire, nous récoltons, nous numérisons tous les documents, nous les photographions, nous les documentons, les indexons, et puis ensuite on les intègre dans une base où les gens vont pouvoir les consulter, les télécharger, et faire ce qu'ils veulent avec ces documents.
Alors, vous pouvez peut-être dès à présent nous donner le lien d'accès vers cette base, cette ressource documentaire ?
Alors tout à fait, il suffit de taper dans votre barre de recherche www.alpazurpatrimoine, Alpes au pluriel, Azur Patrimoine, tout en minuscule. Et là, vous allez trouver en ligne 7 bases de données. Une première base avec des archives numérisées, c'est-à-dire des manuscrits, des archives privées, de la correspondance, des livres de comptes, des livres de raison, enfin, etc., etc. Vous avez une deuxième base, une base images. Les gens vont pouvoir télécharger des centaines d'images de cartes postales de tous les villages du Haut-Pays. Toutes ces images sont géo-référencées sur le site. Vous allez avoir une base botanique avec des herbiers, avec des fiches sur les plantes. Vous allez avoir une base objets, c'est-à-dire tous les objets du musée de la Roudoule, qui est notre partenaire, hein, c'est-à-dire près de 8000 objets du quotidien. Ensuite, vous avez une base architecture avec des fiches descriptives, des articles, des photos sur les monuments, petits et grands. Ça peut être une église, ça peut être un lavoir, un oratoire, un moulin. Enfin, c'est très large. Ensuite, une base bibliothèque avec tout le fonds documentaire de l'écomusée de la Roudoule. Et puis, une base audio-vidéo. Voilà, il y a 7 bases sur ce site.
D'accord. Et Serge, donc c'est un beau projet, hein. Je comprends que finalement c'est collecter ces données avant qu'elles ne disparaissent. C'est un peu comme sauver Soldat Ryan, quoi. Sauf que là on parle de données, de patrimoine. Par contre, j'aurais aimé savoir dans quelle mesure, comment le programme Leader vous a accompagné et sur quel type de financement ce programme s'est positionné.
Alors écoutez, ce projet ne pouvait pas se réaliser sans l'aide du programme européen Leader, dans la mesure où une petite association comme la nôtre, qui ne vit que de la cotisation de ses adhérents, hein, on n'aurait jamais pu avoir la trésorerie suffisante pour financer un tel projet, qui est un projet quand même qui se monte à près de 30 000 euros. Donc le projet Leader est venu nous aider autant sur le plan organisationnel que sur le plan financier. Et pour financer près de la moitié de ce budget.
Hein, d'accord.
Le reste étant complété par des fonds de la région et du Parc National du Mercantour.
D'accord. Donc les partenaires, le Parc du Mercantour, l'Écomusée de la Roudoule, est-ce qu'il y en a d'autres à citer?
À l'Écomusée de la Roudoule, c'est notre partenaire principal, c'est-à-dire qu'il fait partie de. Il travaille avec 1732 pour créer le projet.
D'accord. Très bien. En tout cas, on a bien compris le fond de votre projet et dans quelle mesure donc le fonds Leader a à la fois accompagné sur l'accompagnement du projet en lui-même et sur un financement également. Comment les auditeurs peuvent soutenir votre projet? De quoi avez-vous besoin?
Eh bien, écoutez, nous, on aimerait que le public de ce centre de ressources soit à la fois bon, consommateur, c'est-à-dire ben, il va consommer les contenus qu'on lui propose, il va pouvoir lire des articles sur son village, voir des centaines de photos, les télécharger, télécharger toutes sortes de documents, mais on aimerait aussi qu'il soit acteur, c'est-à-dire acteur de sa propre mémoire culturelle. Donc, qu'il n'hésite pas à mettre à notre disposition, et donc à la disposition de tous, tous ces témoignages du passé qui sont souvent perdus dans de vieilles boîtes à chaussures, qui sont égarés dans les caves et les greniers, des photos, des objets anciens, des manuscrits, des archives familiales qui sont dispersés, tous ces documents qui vous semblent peut-être sans importance, mais tous ces éléments sont les éléments de la petite histoire qui deviennent la grande histoire de l'identité d'un territoire. Donc nous incitons les personnes à communiquer leurs documents, leurs objets patrimoniaux par cet acte. Ils participent au travail de conservation de la mémoire culturelle de notre pays. Donc ils peuvent nous contacter sur le site, ils peuvent nous prêter leurs documents, nous les numérisons, nous les documentons, nous créons un fonds à leur nom, et ensuite nous restituons bien sûr les originaux.
Parfait. Merci Serge. On va devoir s'arrêter là. On a compris le message. Donc, les auditeurs, s'ils se sentent concernés, s'ils ont des ressources, voilà, allez sur le site www.alpeazurpatrimoine.fr. Merci Serge encore pour votre initiative et votre intervention ce soir.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Et on va passer à une pause musicale.
Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Feu rouge dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir.
Donc vous êtes avec le Parc des Préalpes d'Azur et Simon qui est avec nous est animateur leader. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le deuxième projet financé par le dispositif leader dont nous allons parler, qui est en lien avec l'agriculture?
Alors ce deuxième projet, on part dans le monde agricole du parc, puisqu'il s'agit d'un projet qui a plusieurs facettes et qui vise en globalité à revaloriser ces variétés fruitières anciennes et quasiment oublié de nos terroirs agricoles.
Et donc justement, pour en parler, nous accueillons David Fabry, qui est agriculteur arboriculteur à Briançonnet. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Bonjour, donc vous êtes porteur de projet leader. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre projet plus en détail?
Oui, alors le projet dont je m'occupe porte sur la relance d'une filière arboricole et dans le territoire du PNR des Préalpes d'Azur et dans des territoires limitrophes. Et ce projet, il se compose de trois axes, c'est-à-dire une recherche des variétés anciennes, la conservation de ces matériels végétaux et la valorisation des fruits qui sont produits justement par ces arbres. Et c'est un projet qui est multi-partenaire. Et donc nos partenaires sont notamment l'association Agribio 06, qui est l'association des agriculteurs bio du département. Et il y a l'écomusée de la Roudour et l'association des agriculteurs du parc du PNR, oui, du PNR des Préalpes d'Azur. Et on s'est partagé un peu le travail. Il y a notamment l'écomusée Laudoul qui s'occupe de la recherche variétale dans la personne de Pauline Maillère. Et voilà, une ethnobotaniste qui s'occupe justement de mener des enquêtes sur le terrain pour retrouver les arbres anciens, les noms des variétés et l'utilisation ancienne de ces fruits. Et la conservation et la valorisation sont en fait sinon le travail de l'association Agribio 06 qui fait la conservation de ces arbres par la formation de particuliers et d'agriculteurs à l'arboriculture et qui fait la valorisation de ces fruits par la mise en place d'un atelier de transformation, de fabrication de jus de fruits à partir de ces fruits anciens. Et donc, tous ensemble, ces trois axes composent un travail vraiment de grande ampleur. Et voilà, on espère avoir de grands résultats. Voilà.
Ok, merci. Donc, on voit que c'est un projet vraiment très complet et très intéressant. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment l'équipe leader vous a aidé dans le montage de votre projet.
Oui, ben alors le programme leader, pour moi, la grande force, la grande opportunité qui nous a donné, mis à part l'appui financier, hein, qui était très important, et qui nous a permis notamment de confier le travail qui était fait par des équipes qui étaient, on va dire, d'amateurs ou des professionnels, mais qui n'étaient pas forcément compétents dans la matière, de confier le travail plus pointu à des professionnels, donc des chercheurs, des formateurs professionnels qui nous tiennent, qui nous permettent d'atteindre une qualité de nos actions qui est supérieure. Et bien, en plus de cet appui financier, l'équipe leader nous a poussé à travailler tous ensemble. Nous sommes un ensemble d'acteurs, nous sommes un réseau d'acteurs et des passionnés qui nous sont dispatchés sur tout le territoire. Et ça, pour nous, c'est une grande force parce que le travail que nous avions devant il y a quelques années, alors qu'on était tout seul, était énorme. Maintenant, on est une équipe et voilà, ça nous permet d'aller vraiment plus loin, d'atteindre des résultats de meilleure qualité et plus durables dans le temps.
D'accord, donc on voit bien concrètement ce que les deux animateurs leaders vous ont apporté au quotidien dans ce projet. Peut-être que vous pouvez nous préciser maintenant quelles sont les prochaines étapes.
Donc à ce moment, donc, l'équipe de l'écomusée, donc dans la personne de Pauline Maillère, s'occupe activement de la recherche des variétés anciennes. Pauline se déplace sur le territoire. Et elle rencontre les anciens qui habitent encore dans les campagnes, qui n'ont pas quitté les campagnes, et qui nous apportent des informations fondamentales sur les variétés anciennes des pampas et prunes en particulier. Et son objectif, c'est de sortir une publication de type divulgatif qui permet justement de pérenniser, de sauver cette mémoire qui pourrait être perdue. Et l'autre équipe, de l'autre côté, celle d'Agribio, travaille activement pour mettre en place des formations et des animations pour les publics, pour les particuliers et pour les agriculteurs, afin qu'ils puissent être capables de développer l'arboriculture chez eux, dans leur maison, dans leur campagne et sur leurs exploitations. Et aussi travaille pour la constitution, la mise en place d'un atelier de pressage mobile de jus de fruits. Donc ça, c'est un grand travail qui devrait aboutir, qu'on espère aboutir pour la saison prochaine des récoltes des fruits, c'est-à-dire pour l'automne.
Donc c'est-à-dire que finalement, avec le financement Leader, il va y avoir l'acquisition, l'achat d'un pressoir mobile et potentiellement, courant d'année prochaine, il va y avoir des sessions de pressage collectif. Moi et des particuliers pourront apporter leurs pommes, leurs poires dans un pressoir sur la place du village.
Et oui, c'est le but. Nous avons l'espoir de pouvoir travailler avec cette machine dans l'automne, cet automne, automne 2019. Et pour l'instant, je ne m'avance pas plus parce que le travail est en cours. Il y a beaucoup de questions techniques sur l'outil à ressources et beaucoup de questions administratives sur la logistique, parce que ce pressoir il va être géré par un petit collectif d'agriculteurs. Il faut que la structure administrative qui gère le fonctionnement de cette machine soit vraiment bien faite dès le départ pour que ça puisse tourner dans tout le territoire. Et dès qu'on sera opérationnel, il y aura la communication là-dessus. Ce sera pas la... en fait, il s'agira pas des premières séances, sessions de pressage, parce que depuis désormais 4 ans, on permet aux habitants du haut pays de presser leurs fruits. Et on a fait ça jusqu'à présent avec un pressoir qui était prêté par une association du PNR du Verdon. Et maintenant, avec le programme LEADER, on espère obtenir une autonomie dans ce travail de transformation, de fabrication du jus.
Ok, donc merci beaucoup, David.
Voilà, le rendez-vous est pour cet automne.
Parfait, merci beaucoup pour cette intervention. Donc on en a appris beaucoup plus sur votre projet et sur la préservation des fruitiers anciens.
Voilà, donc deux projets, de belles initiatives. Soutenu, donc accompagné à la fois dans la méthodologie du projet, mais aussi soutenu financièrement par le programme Leader. Simon, comment se porte le programme aujourd'hui ? Combien de projets ont été accompagnés ? Est-ce que tu peux nous dessiner un petit bilan ?
Le programme se porte plutôt bien pour une première programmation sur notre territoire. On en est à 19 projets, en tout cas choisis par le comité de programmation. Il y en a 13 sur lesquels on a engagé des fonds. Et les 6 autres sont en attente de cofinancement. Donc on est à 19 projets soutenus, c'est un bon bilan. Le comité de programmation est très mobilisé. Les porteurs continuent d'affluer, notamment j'en ai une bonne dizaine en accompagnement là, en perspective du dépôt du 24 avril. Donc sur le 24 avril, on est plutôt bouché, mais prochain dépôt de projet en tout cas à l'automne, au mois de septembre.
Parfait, merci Simon. Merci à l'ensemble des intervenants qui ont participé à cette émission et plus spécifiquement aux acteurs de ce programme Leader, les membres du comité de programmation et les porteurs de projets qui portent de beaux projets sur notre territoire. Nous vous rappelons que toutes les informations concernant le programme Leader seront disponibles et sont déjà disponibles sur le site internet du Parc Naturel Régional et Préalpes d'Azur. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le 7 mai pour une nouvelle chronique du Parc. Bonsoir.